La semaine dernière, l'agression d'un jeune adolescent de 12 ans en plein centre-ville de Papeete avait créé un véritable émoi sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Vous l'avez entendu sur les répondeurs de Radio 1 également et sur LFM. Il était question d'envolée de la délinquance à Papeete, d'insécurité grandissante dans les rues. Alors cet emballement correspond-il à la réalité de la délinquance urbaine à Tahiti? Eh bien pas vraiment. Et pour en parler, je reçois ce midi le commandant de la DSP, Loïc Anus. Commandant, bonjour.
Bonjour.
Alors la semaine dernière, l'agression, donc je le disais, d'un jeune adolescent de 12 ans a déclenché un véritable emballement médiatique autour d'une prétendue recrudescence de la violence à Papeete. Qu'en est-il réellement de la délinquance et des actes violents en zone urbaine aujourd'hui?
Alors vous me demandez ce qu'il en est réellement de la délinquance et des, notamment des actes violents. Je suis content que vous me posiez cette question. Donc je vais vous y répondre sans langue de bois, tout du moins pour ce qui concerne la zone police Papeete-Pirée. Hein, si l'on regarde les chiffres pour les 6 derniers mois, c'est-à-dire les 6 premiers de l'année 2015, on note une baisse de 20% des vols commis avec violence. C'est une baisse considérable. 20% par rapport à la même période l'année précédente.
Et sur les agressions, enfin les atteintes à l'intégrité physique des personnes, justement, les agressions.
Alors, par contre, les atteintes à l'intégrité physique, c'est-à-dire toutes les affaires dans lesquelles on constate des violences exercées aux personnes, là, la situation est stable. C'est-à-dire qu'on est sur les mêmes bases que l'année dernière pour la même période. Mais qu'est-ce qui constitue la majeure partie de ces affaires de violence? Ben, ce sont des violences conjugales et intrafamiliales. Et là, vous conviendrez qu'il est difficile pour nous de mettre un policier dans chaque famille.
Alors, c'est justement ça, hein, le type de délinquance urbaine auquel vous, policiers de la DSP, vous faites le plus souvent face, c'est donc les agressions intrafamiliales, les violences intrafamiliales.
Voilà, les violences intrafamiliales et conjugales se constituent, je dirais, presque notre pain quotidien, malheureusement.
Alors, on vous a vu sur un autre exemple réagir le mois dernier pour rétablir la réalité des faits sur de prétendus kidnappings d'enfants aux abords d'une école de Taonoa. Il s'agissait en fait d'un pervers qui depuis a été interpellé et même condamné. Sur ces deux exemples, on peut dire que ce sont davantage les échos des faits divers sur les réseaux sociaux qui créent en fait ce sentiment d'insécurité.
Oui, tout à fait. Dans les deux cas, en fait, il s'agit d'épiphénomènes qui ne correspondent pas du tout à la norme. Alors, bien sûr, un jeune garçon de 12 ans qui se fait frapper dans la rue en plein jour par un jeune de 13 ans, c'est intolérable, c'est complètement stupide en plus. Voilà. Mais il faut faire très attention à l'écho qu'on peut en avoir après sur les réseaux sociaux. C'est la même chose qui s'était produit il y a quelque temps avec l'affaire que vous évoquez du pervers. C'est un individu qui abordait des jeunes filles très jeunes aux abords d'un établissement. C'est pas une chose normale. C'est d'ailleurs pour ça que nous avions ouvert une enquête. Mais il était temps à ce moment-là que j'intervienne aussi pour calmer les rumeurs qui faisaient état d'un couple ayant enlevé de 4 jeunes filles qui finalement n'avaient été libérées que parce qu'elles criaient. Enfin, ça ne correspondait plus du tout à la réalité. Il faut se méfier de l'effet pernicieux des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, qui relayent très rapidement des rumeurs souvent infondées. Le meilleur exemple récent en étant encore lors de la dernière grève des gaz de Tahiti, la rumeur qui a fait état d'un blocage de la zone des hydrocarbures. On a vu des files d'attente kilométriques qui ont perturbé la circulation devant les stations d'essence, alors que ce n'était basé sur quoi? Sur rien, absolument rien.
Rumeur d'une pénurie de carburant alors qu'il n'y avait même pas de grève dans les hydrocarbures, pardon. Autre débat, on critique souvent l'inutilité des caméras de surveillance installées dans Papeete. Vos services ont-ils fréquemment recours aux images de ces caméras?
Très fréquemment, oui. Et puis, c'est pas du tout inutile, bien au contraire. Chaque caméra surveille donc un secteur bien précis. Ça permet de créer, en fait, c'est des patrouilles virtuelles. J'appellerais ça des patrouilles virtuelles parce que un seul fonctionnaire derrière les écrans de surveillance surveille plusieurs endroits en même temps. Donc, ça a une très grande utilité. Et la meilleure preuve en est que dans l'affaire du jeune garçon de 12 ans que vous avez évoqué tout à l'heure, on voit sur ces images, effectivement, l'agression se produire. Et celle du mois de novembre dernier, si ma mémoire est bonne, où un jeune garçon également s'était fait agresser du côté de la cathédrale en pleine nuit, eh ben, c'est grâce aux images de la télésurveillance que nous avons pu identifier les auteurs.
Une agression d'un jeune homme pour un vol de portable, il me semble, par 5 personnes contre une personne, donc en pleine nuit devant la cathédrale de Papeete.
Voilà, tout à fait. Alors ça me donne l'occasion, et c'est valable pour les deux cas également, de dire que on est tous un acteur de la sécurité. Vous, comme moi, Il n'y a pas que les policiers. Dans les deux cas, il y a des gens qui sont autour. Et notamment dans l'histoire que j'évoquais autour de la cathédrale, il y a des spectateurs, des adultes qui sont là et qui regardent et qui n'interviennent pas. Alors, on peut comprendre que les gens n'interviennent pas parce qu'on a peur, mais on peut au moins prévenir, on peut au moins faire le 17, c'est gratuit en plus. Les gens qui n'interviennent pas et qui prennent ça comme un spectacle sont passibles de poursuites également pour non-assistance à personne en danger.